Merci, monsieur le préfet Pierre Chassigneux. Vos propositions de doublage sont, on y reviendra, j'imagine qu'on va les commenter autour de cette table. Je passe la parole à Jacques Derrida. Je rappelle que vous êtes économiste, vous avez été membre de la commission Attali, j'ai oublié son titre exact, enfin son objectif était de faire des propositions pour libérer l'économie. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Payer pour réformer, et vous avez des propositions aussi formulées sur la profession de taxi, c'est-à-dire.
Merci beaucoup. D'abord, je suis étonnamment aujourd'hui d'accord avec mon voisin de gauche, notre second débattu, mais sur à peu près tout ce qu'il a dit, sauf sur une chose qui n'a pas mis en avant, qui est le problème de l'offre. Il faut définir l'offre de taxi. Mais je suis totalement d'accord avec M. Assila pour dire que je ne suis pas du tout d'accord avec le titre de la séance qui est Faut-il déréglementer? Car il faut une nouvelle réglementation. Alors, la finance ne tient pas vraiment parce que la finance a été explosée, c'est le secteur bancaire qui est totalement réglementé. On se pose des questions sur la nature de la réglementation. Mais le vrai sujet, c'est comment trouver une meilleure réglementation. Une fois plus, si on prend l'analogie sur la finance, la réglementation bancaire n'a pas marché, donc il faut réglementer. Donc c'est pareil sur les taxis, la réglementation des taxis n'a pas marché. Et pourquoi? En tout cas pour les consommateurs, et donc comment trouver des nouvelles réglementations? Alors tout ce qui est, on parlait rapidement, mais tout ce qui est sur la sécurité, la déontologie et autres, non seulement doit être gardé, mais je pense qu'il doit être renforcé pour le bénéfice des consommateurs. Donc là, je suis totalement d'accord avec M. Castilla. Le problème essentiel, c'est le problème de l'offre. Il y a dans tous les endroits où le marché était ouvert, on a autorisé la densité de taxi est multipliée par deux, trois. C'est Stockholm. Ça a énormément augmenté et il y a peut-être les pays parrainiers, qui sont la France et l'Italie, où ça a été fait, parce qu'on a une augmentation de plus. Et ça a des impacts très négatifs, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rentrer dans le marché, donc je suis d'accord avec M. Silva que c'est un métier dur, il faut avoir beaucoup de respect pour cette profession, des gens qui ont eu des accidents de la vie et autres, des qui ne connaissent pas bien pour qui c'est un premier travail, mais c'est bien comme ça qu'il ne faut pas restreindre le marché. Il faut qu'il y ait d'autres de ces gens qui sont en train de marcher. Donc, il n'y a pas assez d'offres. Et à mon sens, et c'est mon premier point essentiel, dans la définition de l'offre à la demande, c'est surtout pas aux producteurs déjà en place de définir le nombre optimal de taxis. Ce n'est pas tout sympathique qui dit sur M. Esquival et son syndicat qui doivent définir le nombre de leurs concurrents. C'est comme le principe général des prix du marché que. C'est pas aux gens qui sont dans le business de définir le nombre de leurs concurrents. Si c'est le cas, on reviendrait à l'économie de synergie. Il y aurait le nombre défini du journaliste en France et c'est eux qui définiraient le nombre de journalistes après. Alors, on a vu, par exemple, du téléphone, le jour où on a ouvert, le nombre d'opérateurs a augmenté, l'offre a augmenté, etc. Donc le point essentiel, c'est que c'est pas du tout aux organisations syndicales, patronales et du système, et définir le nombre de leurs concurrents, sinon c'est vraiment assez rigide. Il y a peu de métiers, c'est le cas du système taxi, des notaires, d'autres. Sur un petit point de vocabulaire, mes deux collègues ont dit qu'il n'y a pas de numéro ils sont totalement raison d'un point de vue légal. Il n'y a pas de numéro comme on en pharmacie. Mais d'un point de vue économique, un grand droit à rien. De facto, c'est un numéro. Puisque on sait bien que même si tous les maires de Paris ont le droit de créer autant de licences qu'ils veulent, de facto, la pression des taxis qui existent déjà est tellement forte qu'ils ne le font pratiquement pas. Alors, on peut toujours dire qu'ils pourraient le faire, mais ils ne le font pas. J'étais dans un débat avec Jean-Claude Boulin qui m'expliquait qu'à Marseille, il y a largement assez de taxis. Je pense que n'importe qui est allé à Marseille sait qu'il y a vraiment une influence. C'est Marseille. Mais le maire de Marseille est totalement sur le poids d'un lobby qui vote pour lui et donc à ce titre-là, économiquement, il n'y a rien de mieux. Alors, je pense que l'offre n'est pas suffisante. Alors, on peut dire au contraire, mais c'est juste que ce n'est pas au producteur de définir le niveau d'offre. Sinon, c'est une économie parfaite, une économie. Alors, l'idée qui a été sortie de trouver un index, c'est la cartélisation masquée. Parce que ça supposerait qu'au départ, on avait le bon numéro, le bon nombre. Alors, une fois de plus, il y avait 25 000 taxis dans la partie, il y avait 5 000 à 15 000, il y avait 56, il y en a 16 000 aujourd'hui. Si l'ensemble des colonies avait cru au rythme du nombre de taxis de Paris, depuis 1936, on serait trois fois plus pauvres dans l'ensemble. Donc, une fois de plus, c'est pas au producteur de définir le nombre de taxis, soit par la pression, soit par la production d'un index qui est un niveau objectif, qui capture peut-être la variation de la demande, mais qui est totalement en termes de niveau de demande. Alors, comment réformer? Alors, d'abord, la commission de l'aide, moi j'ai été dedans, suite au bouquin que j'avais écrit, et j'étais contre la recommandation tout de suite. Ce que j'ai proposé dans les années que j'ai écrit avec Charles Dupont, c'est de dire la méthode globale, c'est en général, il faut ouvrir ce secteur, le taxi comme d'autres. Mais il y a des gens qui peuvent légitimement dire on a exploité, on a fait confiance à l'État. On a acheté une licence qui était plus ou moins garantie par la puissance publique. Et donc, on a un peu fait confiance à l'État. Et donc, on a acheté cet actif qui vaut 150 ou 80 000 euros. Et comme disait M. Stiva, on va être spolié. Donc, l'idée de mon livre, c'est de dire mais d'accord, ouvrons le marché, pas déréglementé. Ouvrons le marché, quitte à augmenter la réglementation par ailleurs, mais déréglementé sur le nombre de taxis. Et payons la valeur de la licence historique. Au moment de l'ouverture du marché, comme ça, les détenteurs de licence ne sont pas spoliés et les nouveaux entrants peuvent revenir et les consommateurs peuvent avoir plus de taxis. Alors, ça coûte 5 milliards d'euros, voilà, parce que tu as des taxis. Alors, c'est ce que j'ai compris. 5
milliards d'euros.
5 milliards d'euros. Pour recréer le système des taxis. Dans la commission Atali, moi j'ai proposé cette solution. Qui a été refusé, donc on vote, on a été deux à voter pour ma solution et 42 ont voté contre. Donc ce qu'il y a dans le livre et dans le rapport officiel, c'est quelque chose de, je ne sens pas personnel en faveur. L'idée c'était à la fois d'augmenter l'offre sans faire du rachat sur les minéraux. Alors, l'avantage de la commission Atali, c'est quand même que j'ai pu rencontrer un grand nombre de professionnels qui ne sont pas les professionnels, c'est par exemple que je sois rencontré M. Sylvain et leurs. Discuter, faire des arguments et tout, on a nos arguments. Et j'ai aussi parlé avec des outsiders, si des PDG, des autres qui sont pas d'accord avec les députés, les syndicats du monde. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, je ne peux pas vérifier, mais j'écoute, on me dit que la moitié du business est au black. C'est-à-dire que une grande partie des courses ne sont pas enregistrées, on ne donne pas de reçus, et par ailleurs, quand on donne des reçus, ce n'est pas enregistré. Chez Signeux, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'enregistrement. Donc, à la différence du café que vous allez prendre au restaurant, il n'y a pas d'enregistrement pour les services fiscaux de montants de transactions. Donc, ce qu'on m'a dit, je suis fait pour vérifier, dit que la moitié de l'OBAC, ce qui est assez cohérent avec l'idée qu'il est autorisé de retrouver le prix de la licence, elle est tellement élevé qu'on ne comprend pas bien avec les chiffres officiels. Voilà. Donc, il y a présomption, je ne sais pas qu'il y a preuve, il y a présomption qu'une grosse partie de. Business au black, ce qui veut dire que quand on rachète, on ne peut pas demander aux citoyens lambda de payer par ses impôts le rachat d'une évasion fiscale. Je trouve que c'est légitime de racheter le prix de la licence aussi de la première rareté. Donc ça, je suis d'accord avec M. Sylvain, il ne faut pas se coquer, mais on ne peut pas demander aux citoyens et à la puissance publique de racheter une anticipation fiscale, de même que quand vous allez dans un secteur qui est comme ça, c'est un certain nombre de bars. Hein. Les bars qui n'ont pas de contrôle de la fiscalité sont beaucoup plus chers que des chaînes de restaurants où tout est facteur. Donc, voilà. Alors, moi, ma proposition, ça serait, je pense qu'il faut toujours ouvrir, qu'il faut racheter pour un moment en tout, je dirais, d'ordre de 50%. Par ailleurs, légalement, il y a une loi passeport de 1995 qui stipule que tous les taxis la connaissent, que quand on augmente le nombre de licences, on ne peut pas compenser ceux qui étaient là auparavant. Donc, sur l'argument de la spoliation, il est vrai qu'au niveau, je me maintiens, je pense qu'il faut compenser, mais il faut quand même limiter au sens que ils ont tous acheté, sachant qu'ils vont être massivement dilués. Et donc, ce qui est rarement dit. Alors, je voudrais très rapidement en conclusion dire oui, substituer la logique à une logique de concours qui est rationnellement faire une logique d'examen en français, que n'importe qui devrait pouvoir avoir si pour autant qu'il est satisfait à des critères. Il faut maintenir une forte réglementation, je suis bien d'accord, routière, sécurité, hygiène, temps de conduite, c'est très important, je crois, l'aspect fatigue et autres. D'ailleurs, moi, je suis peut-être en faveur de l'allongement qui a été discuté récemment. La règle fiscale, je crois, je crois, je fais chassiner tout à l'heure. Est-ce que maintenant on va avoir un véritable enregistrement des transactions? Et en revanche, il y a une chose qui est. On peut envisager l'histoire de droit de péage. C'est-à-dire, on parle de péage urbain dans un certain nombre de pays, donc il faudrait imaginer que l'ensemble des taxis paient une redevance pour l'utilisation, par exemple, des pouvoirs de bus et autres. Et le paiement de cette redevance pourrait en partie servir à racheter les licences. Donc, alors, dans cette optique-là, je voudrais dire que la solution de framework qui sera définie après n'est pas si complexe que ça, dans la mesure où on ne connaît pas vraiment la valeur de la licence. C'est vrai qu'il y a cette histoire d'évasion fiscale. Sur la formation, il y a un argument très fort de la profession qui veut dire ça ne sert à rien d'augmenter le nombre d'offres parce qu'on ne va pas créer le nombre de chauffeurs, mais c'est évident. Dans la mesure où tout le monde sait qu'il n'y a pratiquement pas de nouvelle licence, que c'est un métier de renouvellement, il y a évidemment très peu d'écoles de formation. Le jour où on verra beaucoup plus, les écoles se feront, alors pas tout de suite, mais au bout de 6 mois, un an, donc c'est normal. Un dernier point qui était soulevé par le prof Chassigny, c'est réforme partielle versus réforme globale. C'est vrai que si on ouvre un petit peu, ben, ça ne va pas changer beaucoup les comportements des gens. Donc on peut avoir beaucoup de taxis à certains moments et autres. Ben, je crois qu'on est dans un système assez clair où une réforme globale est beaucoup plus importante, a beaucoup plus d'effet pour l'ensemble de la population. Une réforme partielle, s'il y avait vraiment une liberté d'entrée, les gens commenceraient à changer leur comportement. Ils laisseraient leur voiture à l'entrée de Lyon ou de Paris. Si tout le monde était assuré qu'il peut prendre un taxi pour pas trop cher entre la banlieue ou la porte de la banlieue, la porte de la ville et le centre de la ville le matin et qu'il peut le reprendre le soir, il le ferait. Les gens ne le font pas parce qu'ils prennent leur voiture parce qu'ils sont plus assurés de trouver une nouvelle voiture au repos. Donc c'est pour ça que la libération partielle, l'augmentation séquentiel et à minima des licences, ça a peu d'effet. Donc moi, je milite pour une solution un peu différente, c'est-à-dire que comme ça a été fait dans certains pays, c'est du jour au lendemain, autoriser l'entrée de qui veut, qui a les capitaux pour s'acheter des voitures, ne plus avoir. Je veux dire, une licence, c'est vous payer pour avoir le droit de travailler. C'est vraiment de l'économie d'ancien régime. Donc je pense qu'on ne doit pas payer pour avoir le droit de travailler, on doit être payé pour travailler. Et donc, moi, je milite pour que beaucoup plus de gens puissent être taxés, et c'est tout à fait cohérent avec les aspects sociaux que me disait M. Castilla. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens, de chômeurs, de gens qui ont été qui puissent avoir accès à cette profession. Et quant à l'argument de la population, outre que vous savez qu'il faut être dilué, je pense qu'on peut envisager une augmentation, je pense, de l'ordre de 2%, ça serait 2 milliards et demi. 2 milliards et demi, on peut espérer à terme une création d'offres pour plus de taxis, ça, de l'ordre de 100 000 taxis en plus. Pas tout de suite, hein. Une fois plus la formation n'est pas là tout de suite, mais c'est pas très cher pour une réforme majeure. Et une fois plus, s'il y a compensation des chauffeurs, des états dans le sens de la plateforme, et puis bien sûr que les chauffeurs seront pas d'accord en proposition, mais une fois plus, dans le marché normal, même régulé, même très réglementé, pour le consommateur, c'est pas aux producteurs de définir le nom de leurs concurrents, sinon ça fait un retour avec eux dans ces régimes.
Merci Jacques Delta, ça a été des nouvelles régulations, hein, vous avez évoqué le problème de l'offre, on a entendu dans votre bouche les mots de lobby, travail au noir, rationnement, stratégie. Vous avez aussi fait une proposition sur une redevance, je ne sais pas si vous avez réagi, M. Chassigny ou pas, mais je vais dire un
mot. Bonjour, monsieur, oui, bien sûr, j'ai étudié toutes les possibilités de rachat de l'or, je ne sais pas si l'État va faire trouver le milliard pour acheter les soins de taxi. Ensuite, le problème de la valeur. Il y a une très grande différence entre la valeur économique de la licence, qu'on peut estimer à 3 pour Paris, ce qu'estiment les sociétés, donc qui exploitent ces valeurs de rentabilité autour de 90 000 euros, et puis la valeur phénoménale que vous avez vue, qui atteint aujourd'hui 150 000, mais qui va monter jusqu'à 180 000. Donc c'est une différence. Ben, s'il y a votre relation, il faut trouver ces prêts à marcher ici dans le pays d'Edouard Berriot, qui disait la politique, comme oui, il faut que ça se sente là, mais pas trop, un peu, mais pas trop, bien, profession, ça peut sentir un petit peu la fraude fiscale, mais pas trop. Donc, bon, ça veut dire qu'on a mis en place un taximètre intelligent qui met les factures. Donc, il y a plein de places où il y a plein de possibilités d'achat, notamment les IV, je l'ai mise dans ce que j'appelle brouilleur de cru, c'est-à-dire une gestion avec une diminution. Donc, on rachète, on gèle le prix de la licence à un instant T, on l'indexe sur l'évolution du prix de la course, et puis, en considérant que les contractuels prennent leur retraite à 65 ans, l'organisme rachète ces licences qui sont à ce moment-là réattribuées de manière accessible et gratuitement, et puis on peut augmenter comme ça leur récupération sans s'en spolier, en garantissant un autre système, c'est celui de la concession. À la limite, un concessionnaire rachète toutes les plaques à tout le monde, moyennant une redevance, et puis donc il recrée comme un concessionnaire, donc il va recréer le nombre de licences supplémentaires qui correspondent, qu'il considère comme devant répondre à la demande, et puis c'est une concession, donc ça dure longtemps. Mais pour les collectivités locales, ça pourrait être intéressant, parce que par exemple en France, il y a la ville de Paris, il y a un système comme ça, au bout de 20 ans, concession de 20 ans, il va remettre en concession, ça pourrait rapporter 2 milliards à la ville. Mais le problème reste dans le secteur entier de la valeur et de la licence sans spoliation. J'ai bien demandé, mais je suis sûr que M. Fugard, si vous proposez à vos collègues de leur payer la licence d'affecter ces adresses qui sont peut-être un peu trop fiscales, ils n'ont pas apprécié.
Sur la porte fiscale, je voudrais vous dire quand même une chose. Ça, c'est l'imagerie du PUNA des années 70-80. Des choses quand même évoluées. Tout à l'heure, vous avez dit que 1 million, 1 milliard, 100 millions sont payés par l'État. Je ne vois pas comment on peut tricher alors que vous êtes payé par l'État.
Vous dites sur les courses privées.
Alors, sur les courses privées, on peut dire, mais c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, mes jeunes collègues, ce n'est pas la vieille génération qui dit on triche, on s'achète des garages. Les jeunes générations aujourd'hui pensent à sa retraite, pensent à un certain nombre de choses, pensent par exemple à s'acheter un appartement ou un pavillon de 10-15 ans d'été. Donc par conséquent, ils doivent présenter des biens de meilleure qualité que ce qui était avant, une prêt de vérité, pour pouvoir avoir des prêts. Et donc c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous avez dit. Les choses évoluent progressivement. Quant au reste, la chimère, on peut dire, pour nous rembourser, on connaît l'État, on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut en discuter, mais dire à mes collègues, d'abord je ne le dirai pas, je ne vais pas le dire, parce que je vais me faire attaquer par mes collègues taxi, c'est impensable. C'est impensable. Par contre, ce qui
c'est est. Pas pour vous, mais pas pour
oui, les pour vous, mais celui qui travaille, qui travaille, c'est une picot. Le reste, si les gens ne sont pas contents, moi je ne connais pas les autres métiers, je ne porte pas de jugement sur les autres métiers. La seule chose qui est un problème et que j'ai soulevé au ministère de l'Intérieur sur le protocole, c'est que les licences 28 nous posent un véritable problème. Est-il normal, je le dis parce que on a fait la réflexion et je l'ai compris, est-il normal quand on donne une licence à quelqu'un et puis ça revient au bout de 15 ans sans même donner une taxe? Ça, c'est choquant. Je comprends que ça soit choquant. Même si sur les 10 000 licences détenues par les artisans à Paris, il y en a 8 000 qui ont été achetées. La mienne a été achetée. J'ai acheté en 1979. Le gars qui l'a acheté l'avait acheté à Roseblanc. Je connais très bien l'histoire de mes licences. Mais ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'il va falloir qu'on résolve. Et deuxièmement, quand vous dites que ce n'est pas à nous de décider, c'est justement ce sentiment que l'index économique, je sais qu'il n'est pas, on peut le contester, l'index économique était quand même.
C'est
mieux que rien. Et alors, je reviens à l'histoire de culture, de racisme social. Quand j'ai proposé ça la première fois, on m'a dit pourquoi. Je leur ai dit, écoutez, quand vous avez un capitaine d'industrie, de major, que ce soit SNCF, électricité, AIVA, ABS, quand il prend une décision pour avoir de l'emploi, avoir l'embauche, il faut bien qu'il ait des chiffres, il faut bien qu'il ait des statistiques. Alors lui, vous admettez qu'il embauche en fonction de statistiques, et moi, vous me refusez. Et c'est pour cette raison, en 2000, quand Daniel Vaillant m'a demandé au ministre de l'Intérieur d'augmenter le monde de taxi à Paris, j'ai dit trois conditions. Première condition, c'est que les sociétés s'enrichissent pas, parce qu'à Paris, nous avons une différence par rapport aux autres, puisque nous avons une historique, nous avons 4000 licences qui appartiennent aux sociétés. Deux, je veux un ascenseur social, c'est-à-dire que les locataires et salariés qui travaillent en équipe soient les premiers à toucher une licence. Et trois, je ne veux pas, excusez-moi, c'est le préfet, je ne veux pas du fait du prince républicain qui représente le préfet ou du prince républicain qui représente le maire, je veux un index de référence qui me permette de mesurer de ce qu'on a besoin. Il est insuffisant, il faut qu'on travaille.
C'est vraiment parce que je suis ici avec la tournée, ce que je disais avant, c'est que c'est un peu moins simple avec le marché, que ce soit les producteurs en place et les syndicats de producteurs en place qui définissent le nombre de concurrents qui viennent exactement. Je veux dire que même M. Varian, il a dit je suis d'accord, je vous autorise pour ce compte de petit marginal à augmenter le nombre de taxis sous les deux premières conditions, pourquoi pas, mais cette histoire d'index, c'est peut-être plus de, à la fin des années 90, il y avait autant de taxis qu'à 1936. Si l'économie réelle du pays en 1990 a été la même en 2000, a été la même qu'à 1936, on sera tous trois fois plus pouvoir pour moi. Donc c'est ça qui n'est pas acceptable. Moi je trouve tout à fait normal qu'il y ait la discussion entre partenaires sociaux sur des choses importantes comme les réglementations, la qualité, la sécurité, je pense que c'est important à la fois pour le consommateur, mais aussi pour les taxis, parce qu'il y a des malheurs, il faut se faire rare, donc les taxis sont en relation, ils sont à l'intérieur pour toutes ces choses-là, mais c'est totalement. Moi je trouve scandaleux et impensable que ce soit des sénateurs en place qui donnent leur rapport ou pas sur le nombre de taxis.
Je voudrais, parce que vous avez essayé de couper en deux le propos d'Alain Tranon, je vais repasser la parole pour que vous expliquiez sa proposition à lui, quel était le plan de travail. Alain Tranon, c'est à vous.
Donc, sur la table, il y a donc la proposition du doublage des lieux, il y a la proposition du rapport des plaques. Je voudrais proposer ici une troisième que je vais illustrer dans l'exemple de Paris, pour lequel on a beaucoup plus de données. Où sur les 15 000 taxis de Paris, il y en a deux tiers, 10 000 qui sont assurés par des entreprises individuelles, et donc 5 000 taxis en fait fonctionnent comme salariés de sociétés. Alors, donc l'idée, ce serait de procéder à une sorte d'augmentation de capital, et l'idée de base, c'est de faire comme si les artisans taxis étaient les actionnaires d'une entreprise qui s'appellerait TaxiPar. Et lorsqu'on veut faire baisser la valeur de l'action, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dilue le capital en émettant des nouvelles actions. Et ici, ça serait, cette opération de dilution de capital se ferait à travers la distribution d'actions gratuites, de plaques gratuites, de licences gratuites, qui seraient données aux exploitants existants, avec obligation de cession immédiate à titre onéreux. Donc, une façon équivalente de procéder, c'est de faire que la préfecture de police procède à la vente de nouvelles licences dont le produit de cette vente reviendrait aux artisans d'activité. Donc ceux-ci peuvent alors donc, placer donc, au taux d'intérêt du marché le revenu de cette vente, ce qui leur apporte donc, un revenu qui leur permet donc, de compenser la baisse du revenu d'exploitation qui va provenir, la baisse de la rente, qui va provenir du fait qu'il y aura plus de taxis en circulation, plus de concurrence, et sans doute, comme je l'ai expliqué, parce que l'élasticité de la demande est sans doute inférieure à 1, une diminution de la rente individuelle des taxis. Alors, est-ce que l'opération est neutre? Est-ce que ce gain qui va venir du produit du placement de ces nouvelles licences va compenser exactement la baisse du prix de la plaque, la baisse du revenu, la baisse de la rente annuelle, et bien, dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir neutralité? Bien, on peut établir qu'il y a une sorte de règle d'or d'augmentation du nombre de licences, et cette règle d'or d'augmentation du nombre de licences fait jouer un rôle au concept, à la part que représente la rémunération du travail dans le revenu du taxi. Je vous ai tout à l'heure parlé de la rente du du taxi qui est ceux qui restent à l'activité du taxi lorsqu'il a payé, lorsqu'il a fait ses heures d'immobilisation, payé ses dépenses, ses sortes, etc. Et qui s'est rémunéré en tant que travailleur, donc ça c'est la rente. Si vous choisissez à cette rente le revenu, le coût d'opportunité du travail, vous avez donc très proche, ouais, un concept très proche d'un revenu des facteurs, d'un revenu professionnel. Et donc c'est le revenu professionnel du taxi qui rémunère à la fois son activité capitaliste et son activité du travailleur. Eh bien, on peut calculer ce que représente la rémunération du travail dans ce revenu. Et la rémunération du travail, ici vous avez la part, donc la rémunération du travail dans le revenu professionnel. Lorsqu'on est jeune, eh bien, cette part est faible parce qu'on travaille beaucoup et donc on gagne grand PIB, donc c'est à peu près 50%. Lorsqu'on est à la fin de sa durée d'activité, vers 65 ans, la part du revenu du travail est très élevée, elle représente 85%. Eh bien, la règle d'or, c'est votre bon dernier transparent, c'est d'établir que sous des conditions de marché parfait, c'est-à-dire si vous pouvez placer le revenu des vous placez des actions gratuites, le produit des actions gratuites, à des placements qui rapportent un taux d'intérêt qui est équivalent au taux d'intérêt auquel vous avez emprunté la licence, mettons 5%, on considère qu'on emprunte à peu près à 5% pour la licence, si vous pouvez prêter également à 5%, eh bien, pour le revenu des artisans en activité, donc en annulant les intérêts faits du placement des nouvelles licences, ne baissent pas, il faut créer de nouvelles licences jusqu'à ce que l'élasticité offre de la demande de taxi, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comment, de combien va augmenter la demande en pourcentage par rapport à une augmentation du nombre de licences en pourcentage, il faut que cette élasticité soit juste égale à la proportion que représente la rémunération du travail dans le revenu professionnel. Donc, ici vous avez vu que là, cette rémunération du travail, elle représente entre 50 et 80%. Eh bien, si on prend par exemple un taxi jeune, pour préserver son revenu professionnel, eh bien, il faut créer un nombre de licences, on peut créer un nombre de licences jusqu'à ce que l'élasticité de la demande soit juste égale à 0,5. Puisque 0,5, ça représente la part du travail dans son revenu professionnel. Et donc, comme on ne connaît pas exactement l'élasticité de la demande, on peut se dire que cette élasticité de la demande, elle va décroître au fur et à mesure qu'on va créer des licences supplémentaires. L'idée que je propose, c'est de procéder d'une manière séquentielle, selon un pas, 5 ou 10%. Et on va d'abord créer une première tranche de 5% de licences supplémentaires. On va voir de combien elle attend. Là, on va calculer quelque part, de manière assez brute, l'élasticité de la demande par rapport à cette augmentation de 5%. On va regarder la comparer au revenu, à ce qu'on représente au revenu professionnel, ce qu'on représente au revenu travailleur, sur le travail au revenu professionnel. Et puis après, si cette élasticité est supérieure, eh bien, on continue par une deuxième tranche, par un deuxième pas, etc., jusqu'à ce qu'on ait atteint cette attente.
Moi, je demande tout de suite à l'institut ce qu'il en pense, parce que c'est une solution qui m'intéresse.
Non, mais c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs que dans son étude pour voir si les choses peuvent évoluer, si on peut améliorer notre présence face à nos clients. Plus on est présent face aux clients, plus on a un client. C'est aussi une règle. Simplement, il y a une chose qu'on oublie régulièrement quand on parle de ça, ça c'est de la théorie, c'est très bien, c'est que, et je vois, puisque c'est les Parisiens qui. En général, quand je suis en province, je ne parle jamais des Parisiens parce que j'ai accueilli par mes collègues de province, surtout à Lyon d'ailleurs. Tout à l'heure, je voulais les rencontrer, je peux vous dire qu'il ne vaut mieux pas que je parle de Paris. Mais puisqu'on parle de Paris, donc, je vais donner des chiffres pour que vous compreniez très vite les choses. Devant les facultés, on est aujourd'hui 16 500, on se met les doublages. Les doublages, d'ailleurs, on les a mis un peu en place et ils se sont arrêtés pour les gros chauffeurs.
Faute de candidats, c'est ça?
Faute de candidats. Mais c'est normal. Alors, faute de candidats, peut-être que c'est normal, mais en tout cas, faute de candidats. C'est 16 500 taxis. Font à peu près 190 000 prises en charge par jour. C'est-à-dire que quand on est 16 500, on n'est pas tout à fait 16 500, puisqu'il faut enlever un septième, puisque ce n'est pas 35 heures, mais c'est 70. Bon, prenons quand même des jours étrangers. Donc 190 000, 16 000 taxis. Là, on sert. Patatras, il pleut. C'est plus 190 000 demandes que nous avons, c'est 200 210 000. Et les embouteillages. Incapable. Il pleut, et vous avez un camion qui se met en portefeuille sur l'autoroute du Nord, et on a un accident grave tous les jours sur l'autoroute du Nord. C'est plus 16 000 taxis capables, c'est 10 000 parce qu'ils sont tous bloqués à Charles-de-Gaulle en décembre. Il faut mettre 2 heures, voire 3 heures pour descendre. Et je pourrais ajouter des tas d'éléments qui font que, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on ne peut plus servir. Et puis il y a des moments, on ne sait pas pourquoi, il y a trop de taxis. Et quand on fait de la théorie, et il faut en faire, parce que sans ça on n'avance pas, bon, il faut ramener les choses au réel et au concret. Donc, quand je suis d'accord sur l'idée, plus il y a de taxis, plus il y a de liens, mais savoir le mesurer, c'est une autre affaire. Et c'est là où je dis, malheureusement dans notre pays, on n'est pas pour les corps intermédiaires, on tape un peu sur les organisations professionnelles, c'est catastrophique, et on va le voir dans les années qui viennent, tant qu'on n'aura pas un dialogue, et on n'a pas de dialogue, parce que si on a manifesté en 2002, c'est parce qu'on n'avait pas de dialogue. Pas en 2007, c'est parce que depuis 2 ans, je m'échinais à dire au gouvernement, nous avons des propositions. Ces gouvernements successifs qui n'ont jamais voulu répondre, et M. Attali d'ailleurs avait notre projet en 40 pages, il n'a pas voulu. Le problème numéro un, ce n'est pas le nombre de taxis, c'est le manque de concertation dans ce pays. C'est ça que vous voulez dire. Je vais finir et je conclurai là-dessus.
Monsieur le préfet, je sais vous voulez répondre au manque de concertation, vous
êtes chargé de nous en sponsor, d'ailleurs, qui va vous amener à ce qui est fait de la concertation largement en convention 3 mois. Ça me concerne. Pas directement. Non, je voudrais venir sur un point, parce que on n'a pas ce troublage. Simplement, et pour autre chose qui paraît autrement plus important, qui est l'aspect écologique du taxi et de la conduite. Je pense que demain, je dis que le troublage, c'est un peu la rupture entre véhicules professionnels et véhicules personnels. Et je pense sincèrement que demain, dans les grandes villes, Paris, mais non sans doute, les plus grandes villes, pour circuler en ville, il faudra des véhicules particulièrement écologiques, et je pense que le terminal aura des véhicules électriques. Et donc on voit mal, à ce moment-là, évidemment, dans 30 ans, la technologie va peut-être progresser, mais on voit mal un chauffeur de taxi repartir avec son véhicule électrique pour partir en vacances. Et donc, il y aura forcément une séparation entre le véhicule professionnel et le véhicule personnel, et donc à ce moment-là, ce véhicule professionnel, à usage uniquement professionnel, peut être utilisé beaucoup plus facilement par plusieurs chauffeurs et permettre de répondre mieux à une demande.
Vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que je suis d'accord avec M. le Chassin. L'écologie et l'offre. D'abord, quand on réduit le nombre d'embouteillages, il y a 15% des gens à Paris, et je peux le dire aussi, qui sont dans la rue pour chercher une place. Et ça va être vraiment plus puisqu'on supprime des places de parking dans les rues. Alors moi je suis cycliste, j'en suis ravi, mais c'est mauvais pour la circulation. S'il y avait beaucoup plus de taxis, les gens ne prendraient plus leur voiture et prendraient un taxi. C'est pour ça que. Par ailleurs, donc ça réglerait la pollution à cause de ça. La deuxième chose, c'est que, comme disait le préfet, on va aller vers des voitures de plus en plus propres, et donc un coût capital important, et ces voitures ne devraient pas utiliser toute la journée. Et tout ça, ça mérite pour une augmentation significative et rapidement de l'offre. Alors que le doublage, vous l'aurez grosso modo parce que l'offre, c'est pour ça que toutes ces mesures incrémentales ne marchent pas bien, parce que faire 1000 doublages de 1000 voitures et les doubler, ça ne marche pas, parce qu'une fois de plus, comme tout, jusqu'à maintenant, c'était une profession extrêmement fermée avec très peu de changements, il n'y avait pas de capacité de formation. Donc c'est normal que 3, 4, 6 mois après la réforme du doublage, il n'y ait pas de contre-formation, parce que la perception des gens qui sont au chômage potentiellement en France, c'est de se dire, je ne vais pas aller, parce qu'il n'y a pas de travail.
Il n'y a pas de centre de formation suffisant. Donc, tant qu'il n'y aura pas une augmentation significative pour un massif de l'offre, il n'y aura pas tout ce qui va avec les bénéfices environnementaux, les bénéfices en termes de moindre embouteillage et les bénéfices en termes de formation et d'emploi.
Je voudrais dire un mot sur la. Pour moi, la non-validité des comparaisons historiques ou géographiques. On dit qu'il y a autant de personnes en France et on dit qu'il y en a moins qu'avant, mais il faut aussi regarder, que le système de transport en commun brésilien n'a rien à faire avec l'agglomération. Deuxièmement, le système de transport en commun brésilien n'a rien à voir avec celui de Londres ou New York. Et donc, il y a un système de transport en commun qui fonctionne bien, qui fonctionne quand même mieux qu'en 1936, et donc qui permet quand même de répondre très largement à une grande partie de la demande, ce qui n'est pas le cas dans d'autres métropoles.
On aurait moins besoin de taxi, quand on dit c'était
un peu. Si on a très facilement un bus qui circule bien ou un métro qui marche, on prend moins de taxi, c'est ça.
Oui, bien.
Oui, je vais dire juste à vous sur les minorités ethniques, sur le fait. Que, comme l'a dit le festival, donc à chaque génération, on prend le bac d'immigration, on avait trouvé ces bacs d'immigration parmi les chauffeurs de taxi. Ça a sans doute été vrai pour les Russes blancs, mais il faut savoir que le taux de chômage parmi les minorités ethniques dans les grandes villes françaises est de l'ordre de 30 à 40%. J'aimerais savoir si. Il y a au moins, par exemple à Paris, on sait qu'il y a 20% d'étrangers dans la région parisienne. Est-ce qu'il y a 20% de gens qui sont étrangers ou plus étrangers parmi les exploitants taxis? J'ai pas l'impression.
Je vous pose la question, je vais vous répondre de la même manière. Les jeunes collègues qui viennent de banlieue ne sont pas beurs ou arabes, ils sont français. Et donc. La nationalité française est majoritaire à Paris, de l'ordre de 70%. Vous pouvez nous voir un français.
Non, mais
c'est ça la tête. C'est ça la
tête. J'ai pas l'impression à Marseille, à Lyon.
Si ce sont des Français.
Non, mais.
C'est sûr. Moi, je m'en fous de savoir s'ils viennent d'Algérie ou tout le moins ils viennent de Corée.
D'accord, mais disons que dans beaucoup de métropoles mondiales, on voit qu'il y a, disons, que les
premiers taxis... Il y a des barrières à l'entrée, justement, pour ces personnes-là.
Oui, déjà, ça veut dire qu'il y a déjà 30% de chauffeurs de taxis qui sont étrangers.
Et qui prennent la nationalité française par le fait qu'ils deviennent chauffeurs de taxi en général. Parce qu'ils s'intègrent.
30% à Paris ou en France, c'est des...
La barrière en France, qui sont en France...
C'est plus faible, selon ça.
C'est plutôt les Français de souffle. J'allais dire Français de France, mais des plus quoi.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, monsieur? Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, je crois que c'est prévu.
Non, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je suis avec beaucoup d'intérêt la discussion, mais c'est très intéressant d'abord de voir un économiste qui applique la théorie tout à fait abstraite au problème. Alain Trenoir nous explique que le chauffeur de taxi, comme le prix de la licence est calculé, en fonction de ce qu'il attend de gagner dans sa vie. Mais pour ça, il faut connaître le prix de la course à chaque moment qui est décidé par l'État, mais aussi il prévoit le nombre de taxis qui vont être alloués dans sa maison calcul. Et si jamais l'État décide abruptement de changer tout ça, il y a évidemment une discontinuité entre ce que le type attendait pour lui payer pour sa licence. Donc, maintenant, Alain nous explique que si on donnait une licence, pardon, maintenant, un salaire de son plus, ce n'est pas du tout clair que le prix ne tombe pas tout de suite à zéro et que le prix de licence à ce moment-là, les gens disent mais je peux vivre avec un taxi, mais je ne peux pas repayer la dette aussi. Donc, je suis prêt à payer zéro pour une licence. Et si ce n'est pas, l'offre des licences de taxi serait absolument inutile. Que les pauvres chauffeurs de taxi vont se trouver avec une licence qui ne va rien. Deux dernières remarques. On parle toujours de réglementation comme si toutes les règles en place étaient aberrantes, ils n'étaient pas là artificiellement. Il y a une évolution du système. Et dans toutes les villes du monde, on va avoir des règles en place qui sont fonction de grande interaction entre les employeurs et les demandeurs. Si on va à Varsovie, où au départ, ils ont totalement déréglementé, maintenant il y a des règles très strictes en place. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire moins l'argent de concurrence. Et dernièrement, personne n'a parlé du prix des courses. Mais ça, c'est quand même décidé aussi, pour l'instant, par la municipalité, par la ville, par le préfet ou par l'État. Et ça, c'est calculé le revenu de la chauffeur de taxi. Est-ce que vous voulez remonter ça aussi ?
Sur la question du prix.
Le prix, alors d'abord, vous avez dit le prix, c'est le prix maximum. En France, il n'y a pas de prix minimum. Dans l'agriculture, mais donc tous les prix affichés, compteurs et autres, c'est des prix maximum. N'importe quel taxi peut vous faire 10, 20, 30% en dessous de ce prix-là. C'est totalement autorisé, juste comme il y a une pénurie d'offres, personne ne le fait, mais sinon, c'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'il faut juste, c'est hyper aller vers le bas, est-ce qu'il faut nous ramener vers le haut? Il y a un gros problème dans un pays comme à Paris, où vous avez les Japonais qui arrivent. Sont capables de négocier. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle il y a un plateau sur le prix. En bas, vous pouvez faire concurrence autant que vous voulez en baissant les prix. Et je ne suis pas sûr qu'on l'affiche sur la porte, mais.
Sur la prix en bas, peut-être.
Ouais. Il faut dire que là, c'est vraiment difficilement à en parler parce que le secteur corporatiste, dans ce cas-là, c'est plus loin, c'est la direction générale des cours. Savoir que le taxi rentre dans les 250 articles à la niche économique, et alors la DGCH, j'allais dire c'est des staliniens, mais je pense que c'est des staliniens, ils me disent monsieur, si l'inflation c'est tant, vous avez tant. Et je ne peux pas, je ne discute de rien. Je peux leur donner tous les arguments possibles et imaginables. Ils s'en foutent, c'est l'inflation. C'est-à-dire que les prix des taxis n'augmentent pas plus que l'inflation. Voilà. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que on constate que, c'est très surprenant ce que je dis, le taxi à Paris est le moins cher d'Europe. C'est assez surprenant, mais il est plus cher pour le client parce qu'on a un problème de circulation. Mais quand on le fait à la base, on est beaucoup moins cher que les autres. Et ce qui est très surprenant aussi, c'est que plus on augmente le nombre de taxis, plus le prix de la course est élevé pour le client. Il y a des règles économiques qui sont contradictoires avec la réalité de ce que nous avons dit nous, les théoriciens. Et c'est là que c'est ça qui est un peu du mal dans notre profession, c'est qu'il y a des choses qui n'ont strictement rien à voir avec des règles économiques qui me semblent d'ailleurs moi-même justes.
Une autre question, c'est que sur l'état vers la scène dans quelques instants.
Voilà. Moi, c'est pas mon autre question. Moi, je suis venue à cet atelier, je ne connais rien à la profession de taxi. Donc, ça m'intéressait de savoir comment se poser la question de la réglementation. Alors, peut-être que dans la salle, il y a des gens qui sont plus spécialisés. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses au fur et à mesure des interventions, mais j'aurais quand même besoin que, enfin, il me semble que ce serait intéressant que les choses soient posées clairement. Que je sois sûre d'avoir tout bien compris. Par exemple, je n'ai pas tout bien compris. Le coût de la licence, d'un côté, on me dit c'est attractif pour le chauffeur de taxi, c'est un effet d'attractivité. Moi, je trouve que c'est hyper cher, je ne comprends pas pourquoi c'est attractif. Bon, je n'ai pas du tout bien comprendre et je pense que ce serait intéressant de reposer le problème. Parce que là, on a eu un petit peu des choses très pointues au niveau spécialiste. Mais si on ne connaît pas la question de départ clairement, ça va être un peu difficile de se faire une opinion.
Alors, c'est terrible, le terminant, on reprendra tout. Complètement de la demande, il n'y a pas de solution. il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat de clients. Et alors, deux interventions tout à fait claires. Jacques Lafina l'a déjà souligné, mais la profession qui détermine combien de personnes doivent exercer la profession. C'est un flagrant. Sur l'intervention de monsieur, sur vous les éternuez. Sur l'intervention de monsieur Chassir, il dit les chauffeurs taxis ne veulent pas avoir une voiture qui se distingue, donc il y en a pas. À New York, les taxis sont jaunes, à Abidjan, les taxis sont orange, à Alexandrie, les taxis, c'était la dernière 24. Enfin, dans toutes les villes, on arrive à imposer ça. Et là, on n'arrive pas à le faire. Ça serait dans l'intérêt du client, ça serait pas dans l'intérêt du chauffeur, mais le chauffeur ne le veut pas, donc on ne le fait pas. Deux questions toutes simples. Premièrement, pourquoi est-ce que le compteur ne sert pas de base fiscale? C'est tout simple à faire, on ne le fait pas, on ne l'a jamais fait. On voit bien que la question de la fraude fiscale peut lutter. La deuxième question, aussi naïve, il y a eu une révolution ces dernières années. Pour moi, un chauffeur de taxi doit avoir d'abord, il doit savoir conduire la voiture, et deuxièmement, il doit connaître la ville. La nécessité de conduire, de connaître la ville ou la région, avec le GPS, elle a disparu. En termes économiques, on abaisse fortement le coût d'entrée de la profession. On a besoin de qualifications moins. Est-ce que ça se traduit d'une manière ou d'une autre dans la profession?
Les deux questions.
Je réponds. Donc, c'est d'abord sur l'approche client. Ça fait partie de mon rapport, je l'ai dit. Deuxièmement, l'identification graphique, donc l'identification, c'est quelque chose de logique. Je vais être mis au moment d'exercer la profession taxi. Deuxièmement, le taximètre intelligent délivrant les factures, il est en train d'être mis en place. Ça fait partie des suites de mes propositions qui ont été faites par le protocole. On va prendre une discussion quant au GPS.
Un estimage
par rapport à la connaissance du chauffeur de
taxi. Je vais vous donner un chiffre qui va vous choquer encore. La moitié des gens qui rateront leur examen, c'est sur quoi? Des gens qui ont des mal. Pour que la moitié des gens qui veulent être chauffeurs de taxi sont éliminés à cause de la conduite, c'est quand même, on se prend du mal. Quand on regarde les négociations, ils se font des yeux en conduisant bon. Donc, c'est vrai que le GPSN est un élément nouveau, sauf qu'il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été faites, et en particulier à Paris. On a pris 4 personnes, des 2 taxis. On a supprimé le GPS au taxi, bien sûr, on lui a interdit de faire le bonus taxi, et il est arrivé 10 minutes, voire 15 minutes, avant ceux qui avaient le GPS.
Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Alors je vais remercier tout le monde.
Ah, une dernière question. Très rapidement, parce que c'est
plus tard en retard que le voilà. Pascal Pidère, je suis secrétaire général de la Fédération nationale des taxis indépendants.
Ouais.
Une autre fédération que celle de M. Estival. Plusieurs choses. Simplement, déjà, on ne peut pas garantir les numéros pour l'économie. Pour acheter des numéros, on ne peut pas les garantir au niveau des banques. C'est interdit par la loi. Alors, pour acheter, donc, on ne peut pas les mettre en garantie des numéros pour acheter des numéros. Maintenant, je n'ai pas entendu quelqu'un qui a parlé du rapport qu'il aurait d'un taxi par rapport à son salaire. On fait 70 heures par semaine.
Mais volume horaire.
On a un volume horaire important, mais on est des smicards. Il faut compter qu'on est des smicards. Quand on fait 35 heures, on a à peine couvert nos frais actuellement. Ça, c'est une chose. J'ai entendu M. Desbats qui parlait des taxis de Stockholm, vous avez bien réglementé. Il faut aller juste sur toutes les choses. C'est pour moi qui dis, ça rapporte au CDE, les salaires ont diminué 25% pour les taxis. Il faut qu'on puisse vivre dans notre travail dignement. Et au niveau des immigrés, simplement, alors je suis entièrement d'accord avec Alain Stivat, ce sont des Français. Il faut arrêter de dire que ce sont des gens immigrés. Mais malheureusement, effectivement, c'est tous des gens d'origine étrangère qui rentrent dans ce métier parce que c'est un métier qui est dur, parce qu'ils n'arrivent pas à travailler ailleurs. Et donc, il ne faut pas oublier que ces gens-là viennent chez nous à cause de ça. Et que les Français, on va dire, de souche, ne veulent pas le faire parce que c'est dur. Si on dérèglemente, comme dans le temps, ou doubler les voitures, moi, je demande à ces gens-là qui viennent dans la voiture, qui travaillent dans notre place, ils verront le nombre d'heures qu'on attend. On parle de Paris à Lyon. Les ruptures de charge, elles durent une demi-heure par jour.
Je vous prie la parole à la suite. Jacques Delmas,
vous avez sur la concarisation, vous avez raison, c'est un travail très dur. L'une des raisons de la concarisation et des revenus très faibles, c'est parce qu'une grande partie d'entre vous doit payer 4 000, l'équivalent de 4 000 euros de plus quand on est locataire, c'est l'équivalent de la licence. Donc, si s'il n'y avait plus de licence, ben, vous seriez salarié beaucoup mieux. Et donc une partie de la population est une société totalement stupide de licence qui est de l'auto-esclavagisme dans un sens. Donc, ce que vous avez dit, c'est que la nécessité de rembourser 180 000 euros ou 300 000 euros sur la Côte d'Azur pour avoir le droit de travailler fait qu'effectivement il y a une grande pauvreté dans ce système-là. D'où moi mon idée de rembourser les plaques et de faire en sorte que, à partir de ce moment-là, tout le produit de votre travail serve à payer l'essence, la voiture et vos billets.
On en restera. Merci à tous, Alexandre, messieurs.